La journée a été chaude. L'été approche. On le sent déjà à cette lumière qui fait briller les immeubles et les espaces verts de la ville. Il est près de 21h et des promeneurs déambulent encore avenue Guillaume, regardent les vitrines des boutiques chics, flânent sous les platanes bourgeonnants. D'autres sont installés dans les cafés, notamment au Bloom, situé en face de l'établissement thermal. Ce café s'est considérablement développé au cours des années précédentes. Ses tables, ombragées par des marquises, occupent une grande partie de la façade. Il comporte également un restaurant et des chambres d'hôtel. Le Bloom a supplanté le café Engel, qui en son temps a été le premier café élégant du quartier. Ce soir, il y a encore du monde au restaurant. On dîne, on boit un verre de vin, où l'on essaie le punch de mai à la spirule. Des garçons en costume noir, une serviette blanche sur le bras, vont et viennent entre les tables. Les clients qui arrivent sont invités à prendre place à l'intérieur, car il y a des réservations en terrasse. La célèbre cantatrice Maria Callas donne un récital dans le bâtiment des thermes. À la fin du spectacle, ce sera la ruée dans les cafés et les restaurants. Au café Engel, il n'y a plus qu'un jeune couple attablé à l'extérieur. Svetlana, venue donner un coup de main, s'est approchée des jeunes gens, plongée dans une discussion animée, au cas où ils souhaiteraient prendre autre chose. Mais ils semblent se satisfaire de leur verre de vin. À l'intérieur, on est en famille, ou presque. Heinz Kohr et sa femme, Else, sont assis à la table d'angle avec un verre d'Angelot, un blanc sec qui vient du vignoble de leur gendre. Le pianiste Obzi Lindner s'est joint à eux. Demeuré célibataire, il joue au café 3 après-midi par semaine. Il fait pour ainsi dire partie de la famille, tout comme Adi Dobscher qui, avant la guerre, a fait une brillante carrière de baryton au théâtre de Wiesbaden. Il occupe toujours son petit appartement sous les toits et rend de nombreux services au corps. Bien qu'il ne fasse pas ses 75 ans, il est devenu plus lent et marche désormais légèrement courbé. Il vit seul. Julia Wimhühner, son grand amour, a quitté la maison. « Est-ce qu'il faut que je demande aux jeunes gens s'ils veulent autre chose ?» s'enquiert Svetlana auprès d'Else. « Non, laisse. Ils croiraient qu'on veut les chasser. S'il y a du monde qui vient s'installer en terrasse, tu pourras toujours leur poser la question en passant. » Svetlana acquiesce et repart en direction de la cuisine. Mais Heinz Kohr la rappelle.
« Apporte-nous une autre bouteille d'Angelot, s'il te plaît. Et viens donc t'asseoir avec nous. »
Svetlana jette un regard hésitant à sa belle-mère. Avec le temps, leurs relations se sont améliorées, surtout depuis la naissance de Sina, qui a maintenant 6 ans. Mais on ne saurait parler d'affection. Else n'a jamais compris comment son fils Auguste, qui a été prisonnier de guerre en Union soviétique, a pu épouser une Russe.
« Les employés n'ont pas à s'attabler, Heinz, »
répond promptement Else.
« Ça fait mauvaise impression. »« Allons !»
réplique Heinz en lui tapotant affectueusement le bras.
« On a encore une bonne heure avant l'arrivée des auditeurs du concert. On ne va tout de même pas obliger Svetlana à faire le pied de grue. »
Comme Upsi et Adi font chorus, Else n'insiste pas.
« Vous avez raison, » soupire-t-elle. « Je suis de la vieille école. Quand j'étais jeune et que je faisais le service, mes parents ne m'auraient jamais autorisé à m'asseoir. Ils étaient très stricts. « Et tu n'aurais pas eu le droit de boire du vin !»
ajoute Adi en la resservant.
« Certainement pas. »
D'ailleurs, aux heures d'ouverture du café, papa ne buvait pas une goutte d'alcool.
Svetlana va chercher une autre bouteille et une carafe d'eau, puis s'assoit avec ses beaux-parents. Elle débouche la bouteille et remplit les verres. Elle-même ne boit que de l'eau. À la maison, Auguste a acheté une ravissante petite villa Jugendstil il y a 1 an, Sina est au lit, et son père lui a sûrement lu son histoire préférée avant qu'elle ne s'endorme. Fifi Brin d'Acier, de l'écrivaine suédoise Astrid Lindgren. Sina et Auguste adorent ce livre. Svetlana, elle, le juge un peu choquant. Les enfants, pense-t-elle, doivent apprendre à obéir à leurs parents, à avoir de bonnes notes à l'école, à être francs, sincères et travailleurs. c'est ce qu'on lui a inculqué. Or, ce récit encourage les enfants à commettre de dangereuses bêtises. Comment Auguste, généralement si sévère, peut-il aimer à ce point cette histoire et la lire si souvent à sa fille? D'autant plus que Sina sait déjà lire et qu'elle adore cela. Mais c'est si agréable d'être blottie dans son lit et d'écouter quelqu'un vous faire la lecture. Pendant que le jour baisse et que les lumières s'allument, Svetlana écoute en silence les conversations de ses compagnons de table. On en revient toujours au même sujet. Les changements et l'évolution des mœurs, qui ne plaisent guère à ses beaux-parents, et avec lesquels Adi et Oupsi ne se sentent pas à l'aise non plus.
« La professeure porte du vernis à ongles rouges !» s'indigne Else. « Non mais vous imaginez ? Qu'est-ce que les enfants doivent penser ?»
Svetlana opine poliment, tout en songeant qu'elle le fait aussi. L'été, elle va jusqu'à se vernir les orteils. Auguste l'y encourage. Il trouve cela joli et lui rapporte de temps en temps un flacon. Son cabinet d'avocat lui assure des revenus importants et il est fier de pouvoir offrir à sa famille une existence libérée des soucis matériels. Leur seule source de préoccupation, pense Svetlana, c'est Misha, son fils, à présent âgé de 16 ans. Elle, qui l'avait rebaptisé autrefois Michael pour qu'il s'intègre mieux à l'école, aimait à l'appeler par son vrai prénom désormais.
« Ça s'appelle un petticoat », dit Else avec ironie. On est passé au sujet suivant. Ces jeunes filles ne savent plus quoi inventer. Elles superposent plusieurs de ces jupons pour augmenter l'ampleur de leurs jupes et montrer tout ce qu'on peut montrer. Et cette façon qu'elles ont de se trémousser. Dans le temps, on les aurait enfermées.
Mais ces messieurs ne sont pas d'accord. Adi, surtout, trouve que les jeunes filles modernes ont une allure très chic. Et Heinz partage son point de vue. Puis on s'indigne des queues de cheval et de cette horrible musique chevrotante qu'on appelle rock'n'roll. Cette fois, Oupsi est d'accord. Un Elvis Presley n'arrivera jamais à la cheville de grands ténors comme Richard Tauber et Enrico Caruso. Comment se fait-il qu'il suscite l'adoration des jeunes qui vont jusqu'à imiter sa coiffure? En disant cela, Else tourne le regard vers Svetlana, car Misha, précisément, porte une banane et s'enduit quotidiennement les cheveux d'une graisse parfumée. C'est un beau garçon qui ressemble à son père, l'officier allemand qui dirigeait le camp de travail où Svetlana a été envoyée au début de la guerre. Il a du succès auprès des filles. Après 8 ans de scolarité, il est entré en apprentissage chez le cimentier Dickerhoff, où il n'est pas resté longtemps. Puis chez le producteur de vin Henkel, à Biebrich, qui ne lui a pas davantage plu. Depuis, il se débrouille en faisant de petits boulots et n'a visiblement pas l'intention d'entreprendre un nouvel apprentissage. À présent, la nuit est tombée. Les réverbères éclairent les rues et les parcs de leur douce lumière jaunâtre. Derrière les platanes, le théâtre illuminé paraît irréel. Au-dessus du bâtiment, une étoile brille dans le ciel nocturne gris sombre. Le jeune couple règle l'addition et donne un menu pourboire à Svetlana. Des gens en tenue de soirée commencent à sortir de l'établissement thermal et traversent la rue. Le concert a pris fin.
Vous avez lu ce que le courrier a écrit sur la Calas ?
Demande alors le jeune homme à Svetlana.
Le journaliste dit que c'est une tigresse, qu'elle est totalement imprévisible, capable d'annuler un concert au dernier moment.
Svetlana lui adresse un sourire aimable. Une femme comme Maria Callas peut se permettre ce genre de fantaisie. Elle est si célèbre qu'on lui pardonne tout. Il n'empêche, pense-t-elle, ce comportement ne donne pas un bon exemple. Une grande artiste devrait faire preuve de modestie.
De toute façon, poursuit le jeune homme, les places étaient trop chères pour nous. Nous préférons boire votre excellent vin. Transmettez nos félicitations à Monsieur Perrier.
Merci, je n'y manquerai pas. Il sera ravi.
Svetlana s'attarde un moment à l'extérieur dans l'espoir de voir arriver un peu de monde. Mais comme d'habitude, c'est le café Bloom qui draine la majorité des clients. À l'intérieur du café Engel, on a remarqué ce qui se passait. Ce n'est pas une surprise. Les spectateurs de l'établissement thermal se dirigent presque naturellement vers le café le plus proche.